Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La Sainte Eucharistie continue à travers les âges l'œuvre rédemptrice et sanctificatrice du calvaire. Elle en applique les fruits aux âmes par la Sainte Communion. Elle est le plus grand bienfait accordé à l'homme sur la terre. Pourquoi ? Parce que c'est notre Seigneur lui-même qui se donne à nous, avec toutes les richesses de sa double nature, divine et humaine, avec tous les trésors de son cœur. Et ce don incomparable, notre Seigneur le fait par un mode d'union dont le symbolisme contient de magnifiques richesses doctrinales qui, hélas, sont trop méconnues. Le rite extérieur nous montre une mendication matérielle de pain et de vin, mais cette mendication sensible est une image exacte, quoique déficiente, de la nutrition spirituelle qui s'accomplit invisiblement dans l'âme. C'est le corps et le sang de notre Seigneur que nous recevons. L'âme se nourrit de Dieu. C'est déjà, d'une certaine manière, le ciel sur la terre, moins la vision et la plénitude de la paix. Il n'est donc pas surprenant que les auteurs spirituels recommandent si instamment aux fidèles qui communient la double pratique de la préparation et de l'action de grâce. Mais de ces deux actes, préparation et action de grâce, quel est en réalité le plus important ? Eh bien, c'est la préparation. Et un premier fait le prouve. Tout en recommandant la communion fréquente, l'Église pose des conditions rigoureuses pour que la réception de la communion ne soit pas indigne. Elle exige du communiant, si par malheur il est en état de péché mortel, qu'il purifie d'abord sa conscience par la confession, sous peine de sacrilège. D'autre part, elle impose un temps de jeûne eucharistique de 3 heures et une tenue extérieure modeste. Or, tout cela regarde la préparation. En revanche, pour l'action de grâce après la communion, eh bien, l'Église se contente d'encouragements. Des encouragements très pressants, évidemment, mais celui qui omettrait ce temps d'action de grâce ne commettrait pas une faute grave, et peut-être même, en raison des circonstances, pas de faute du tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire son action de grâce. Mais cela nous montre que l'Église considère la préparation plus nécessaire et plus importante que l'action de grâce, même si, bien sûr, elle attache beaucoup de prix à cette dernière. Et d'ailleurs, la ferveur et la valeur sanctifiante de l'action de grâce elle-même dépendent de la préparation. Les bénéfices spirituels recueillis pendant l'action de grâce sont en dépendance directe et nécessaire de la manière dont on s'est préparé à communier. Si l'on s'est mis dans les dispositions les plus parfaites pour recevoir le plus dignement possible la Sainte Hostie, eh bien ces mêmes dispositions exerceront évidemment aussi leur influence sur l'action de grâce. Elles la rendront plus humble, plus attentive, plus surnaturelle, plus confiante et par conséquent plus efficace et plus sanctifiante. Et Dieu, touché par la ferveur des accents qui jailliront du fond de cette âme, y versera plus abondamment les flots de sa grâce. Et pourtant, chez beaucoup de personnes adonnées à la piété, la tendance serait plutôt d'attacher une plus grande importance, au moins effective, à l'action de grâce. D'autant que de surcroît, les prédicateurs parlent plus volontiers de l'action de grâce que de la préparation. Peut-être parce que c'est plus facile. Sans doute, les catholiques fervents qui communient souvent ne négligeraient à aucun prix un minimum de préparation. Ils sentent comme d'instinct la nécessité de faire à l'hôte divin une demeure digne de lui. Donc il s'y prépare par le désir, par la prière, par une conscience purifiée, par une vie chrétienne sérieuse, et puis en tâchant de bien suivre la messe. Mais par ignorance, ou du moins par une certaine méconnaissance des richesses propres à ce sacrement, il n'apporte pas autant de soins à s'y préparer qu'à remercier ensuite. Et c'est très dommage. Et c'est ce que nous voudrions montrer ce matin. Il est vrai que la préparation est plus austère, plus pénible que l'action de grâce. Elle consiste en un travail de purification et de désir qui exige des efforts, des sacrifices, une grande pureté d'intention. Les consolations et les douceurs sensibles y sont plutôt rares. Elles semblent davantage réservées à l'action de grâce, bien que même là, elles ne soient pas toujours présentes. Nous le savons par expérience. Mais encore une fois, ce travail de préparation, quoi qu'il en soit du bienfait et de la nécessité de l'action de grâce, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce travail de préparation reste le plus important. Et la raison principale en est que la grâce sacramentelle qui est donnée à l'âme dans la communion est donnée en proportion de la ferveur de la préparation. Et rien n'est comparable à cette grâce. Elle dépasse tout en grandeur et en beauté. C'est notre plus précieux trésor, notre plus grande richesse ici-bas. On peut dire que c'est l'unum necessarium dont parlait Jésus à Marthe et à Marie. Cette grâce, c'est un mystère de nutrition spirituelle. Et dans ce mystère, tout dépend du principe, tout dépend du point de départ, c'est-à-dire de la préparation. Pour bien le comprendre, quelques explications préalables sur les grâces sacramentelles sont indispensables. Chaque sacrement, vous le savez, donne à l'âme une grâce propre, une grâce spéciale, distincte de la grâce des autres sacrements. Si notre Seigneur a institué 7 sacrements au lieu d'un seul, c'est pour que chacun d'eux nous apportât des secours et des bienfaits surnaturels propres, répondant à la diversité de nos besoins. Or, entre toutes ces grâces propres à chaque sacrement, qui sont toutes d'un prix infini, on peut néanmoins établir un ordre comparatif, une hiérarchie. Et la plus importante de ces grâces, la première, la plus riche, eh bien, c'est précisément celle qui nous vient de l'Eucharistie et qui est une grâce de nutrition spirituelle. Et pour le faire comprendre, saint Thomas prend une comparaison avec l'ordre naturel. Et cette comparaison est très éclairante. Dans toute vie naturelle, en effet, l'acte le plus important pour le maintien de cette vie, pour sa croissance, pour la mise en œuvre de toutes les énergies qui sont nécessaires à la vie, eh bien, c'est la nutrition. Le vivant a besoin d'une nourriture qu'il s'assimile régulièrement, qui agisse de façon constante dans son organisme et qui compense les déperditions continuelles que nous connaissons jour après jour jusqu'à la mort. Primum vivere, disaient les anciens, il faut d'abord vivre. Et pour vivre, il faut s'alimenter, se nourrir. L'énergie vitale dont nous jouissons est en proportion de la qualité de la nourriture que nous prenons et du degré de son assimilation. C'est une loi naturelle. Eh bien, cette loi s'applique aussi à la vie surnaturelle et vaut plus ou moins selon le profit que l'âme tire de l'aliment divin contenu dans la communion. La privation ou le mauvais emploi du pain suprasubstantiel, comme dit l'Évangile, que nous a préparé notre Sauveur, produit des symptômes et des résultats semblables à ceux que l'on constate chez un vivant dont la nutrition est défectueuse, insuffisante ou nulle. C'est la faiblesse, l'anémie, les troubles graves et finalement la mort. Il n'y a donc pas pour nous, chrétiens, de grâce en soi plus importante que la grâce propre du sacrement de la Sainte Eucharistie. Elle forme comme le fond même de notre vie chrétienne. Le baptême et la confirmation ne nous sont donnés qu'une fois. Le rôle de la pénitence et de l'extrême onction est accidentel. Il s'agit d'ôter les obstacles à la vie divine. Le mariage et l'ordre ne sont conférés qu'à certaines catégories d'individus, mais l'Eucharistie, elle, par sa nature, a une application incessante, continuelle, et se rattache essentiellement à toutes les formes de notre activité spirituelle. Saint Thomas écrit « La sanctification que nous recevons des autres sacrements, et elle est très grande, est une préparation pour la perception ou la consécration de l'Eucharistie. C'est vraiment la fin de tous les sacrements, le but de tous les sacrements. Par la Sainte Eucharistie, nous recevons la réfection nécessaire à notre âme baptisée, cette âme qui marche vers le ciel et qui use ses forces jour après jour, dans le labeur et dans la peine. La Sainte Eucharistie, c'est le pain de chaque jour dont parle l'oraison dominicale, le Notre Père, et que Jésus nous fait demander après le règne de Dieu et l'accomplissement de sa volonté au ciel et sur la terre, mais il nous l'a fait demander comme la première des grâces pour nous. Toutes les demandes du Pater qui précèdent concernent Dieu. Pour mieux s'en convaincre, il suffit de méditer la belle antienne des Vêpres du Saint-Sacrement. C'est l'antienne que nous allons chanter ce soir, avant le Magnificat, l'antienne du Magnificat. « Ô Sacrum Convivium, ô banquet sacré, où est reçu le Christ, où est renouvelée la mémoire de sa passion, où l'âme est remplie de grâce et où est donné le gage de la vie future. » Inco Christus sumitur. Dans la Sainte Eucharistie, le Christ est reçu. Saint Thomas écrit dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est contenu substantiellement, tandis que les autres sacrements renferment une certaine vertu instrumentale dérivée du Christ. Vous voyez la différence ? On peut donc dire de la Sainte Eucharistie qu'elle est par excellence le don de Dieu. Il n'y a pas ici une simple vertu émanant de Jésus, comme dans les autres sacrements. C'est sa présence directe qui agit. Et c'est pourquoi l'action de la Sainte Eucharistie dans l'âme du communiant surpasse tous les autres modes de sanctification employés par Dieu. C'est l'auteur même de la grâce ici qui agit directement. L'antienne au Sacrum Convivium continue par ces mots, Recollitur memoria passionis eius. Dans ce sacrement est rappelé la mémoire de sa passion, de la passion de Jésus. Notre Seigneur nous apporte dans la Sainte Communion tous ses états terrestres et tous les mérites attachés à ses états, sa naissance, sa vie cachée, son apostolat, sa passion, sa résurrection, sa gloire, mais surtout sa passion. C'est principalement le Sauveur crucifié qui se donne à nous dans la Communion. Avec tous les trésors de miséricorde, de pardon et d'amour acquis sur la croix pour le rachat, la sanctification et le salut de l'humanité. Par essence, l'Eucharistie est le mémorial perpétuel de la Passion. Et c'est pourquoi, toujours selon l'enseignement de saint Thomas, les mêmes effets que la Passion du Christ a produits dans le monde, ce sacrement les produit dans l'homme qui communie. C'est une phrase importante qu'il faut méditer. Les mêmes effets que la passion du Christ a produits dans le monde, ce sacrement les produit dans l'homme qui communie. Les effets produits par la passion sont infinis. Cette phrase ouvre les plus merveilleuses perspectives. La possibilité, si nous le voulons, d'une volonté vraie, efficace, de recevoir à chaque communion, dans la mesure où une créature peut les recevoir, bien sûr, toutes les grâces de sanctification contenues dans la croix. Autrement dit, la sainteté. Et puis enfin, l'antienne que nous chanterons ce soir termine par ces mots, « Et futuri gloriae nobis pignus datur ». Dans le Saint-Sacrement, nous est donné le gage de la gloire future. Dans la Sainte Communion, le Christ nous apporte le ciel avec lui. Alors c'est vrai, rigoureusement parlant, il ne s'agit encore que de gage, d'espérance. Mais cette espérance, parce qu'elle s'appuie sur la parole infaillible de Dieu, renferme une certitude absolue. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. A la vie éternelle. Vous voyez que c'est un présent. Il y a déjà quelque chose qui s'accomplit dès maintenant. Il y a comme un avant-goût du ciel. Du côté de Dieu, la promesse est absolue, elle est irrévocable. Le fidèle qui, après avoir communié dans sa vie, n'atteindra pas cette fin surnaturelle qui lui est promise, ne devra s'en prendre qu'à lui-même. C'est par sa faute qu'il aura gaspillé et dissipé ce trésor d'espérance surnaturelle. Alors voilà tout ce que nous apporte de bien spécial chaque communion faite pieusement. Sous le signe d'une mendication, la grâce propre du sacrement de l'Eucharistie consiste dans une vraie nutrition surnaturelle. L'âme est proprement nourrie de Dieu. Nutrition d'une richesse infinie, capable, quand elle agit en plénitude, quand rien ne contrarie son mouvement, de réaliser dans une seule âme les merveilles de sainteté que la passion a produites dans le monde. C'est extraordinaire. Et on comprend qu'il n'y a rien de comparable à une telle grâce. Rien de plus fort, rien de plus efficace, rien de plus riche, rien de mieux adapté pour produire en nous le merveilleux chef-d'œuvre de la sainteté. Alors, quand on a compris ces choses, eh bien on ne peut plus communier de la même manière. On ne peut plus s'approcher de la Sainte Table sans une sérieuse préparation, c'est évident. Car comment et quand cette merveille se produit-elle? Eh bien, comme dans tout sacrement qui agit ex opere operato, comme dit la théologie, cela se produit à l'instant même où le signe sacramentel est posé. Autrement dit, la nutrition spirituelle de l'âme coïncide avec la nutrition corporelle sensible qui se fait par l'absorption des espèces, tout comme la purification de l'âme pécheresse est produite au tribunal de la pénitence à l'instant où le prêtre prononce la formule de l'absolution et par la vertu de cette formule. Et une fois achevée cette nutrition sensible, c'est-à-dire une fois le signe disparu, le sacrement, qui par définition est un signe, justement, n'existe plus et donc n'agit plus. Les effets de grâce perdurent, évidemment, mais la nutrition proprement dite, l'action sacramentelle, elle est achevée. Et l'action de grâce qui vient après, qui est importante, évidemment, c'est quelque chose de nouveau, de distinct, qui n'a rien à voir de façon directe avec l'action sacramentelle. Elle s'ajoute comme un complément normal, comme un complément excellent, mais elle ne peut pas nous donner ex opere operato par sa vertu propre, ses richesses infinies dont nous avons parlé, que nous avons décrites brièvement, c'est-à-dire la présence substantielle du Christ, les mérites de sa passion et la vie de la grâce et de la gloire. Il est donc facile de comprendre maintenant l'extrême importance de la préparation pour ne pas passer à côté de l'essentiel au moment de la communion. Ce n'est pas à l'instant où l'on se présente à la Sainte Table que l'on peut spontanément réaliser la grandeur de la grâce qui nous est offerte et se mettre dans les dispositions requises pour en bénéficier pleinement. C'est trop tard. C'est avant qu'il faut y penser et s'y préparer. Car si le sacrement ne peut pas ne pas opérer, ça ne dépend pas de nous, le sacrement agit ex opere operato. Sa fructuosité, comme disent les théologiens, c'est-à-dire son fruit dans nos âmes. Alors cela, ça dépend de nos propres dispositions, de la ferveur avec laquelle nous allons recevoir la Sainte Hostie. Eh bien, ça, faut s'y préparer. Et tout, en définitive, se réduit à ce point précis. L'influence sanctificatrice du sacrement se mesure exactement à l'état où l'âme s'est mise elle-même avant de s'approcher de la Sainte Table et où elle se trouve quand elle reçoit la Sainte Hostie. C'est ça l'essentiel. Et ça se comprend aisément. On peut revenir à l'analogie avec la nourriture naturelle. Comment fait-on pour juger de l'efficacité d'une alimentation quelconque? Il faut considérer deux choses. Quelle est la valeur de l'aliment et dans quelle mesure le sujet est-il apte à se l'assimiler? L'aliment doit être sain, substantiel, riche en vertus nutritives, sinon il nourrit pas. Et du côté du sujet, il faut que l'organisme soit capable d'absorber ce qu'on lui donne. Si les organes sont défectueux, s'il y a des affections morbides, eh bien tout ça fait obstacle à l'action vivifiante de la nourriture. Eh bien, quand il s'agit de la Sainte Eucharistie, du côté de l'aliment, rien ne manque. C'est évident. Sa valeur est infinie, puisque cet aliment s'identifie avec Dieu. Et en plus, par tout le poids de sa nature, Dieu tend à se donner pleinement, sans réserve. Dieu n'est pas chiche. « Bonum est diffusivum sui », dit l'adage scolastique. Le bien ne demande qu'à se répandre. Cela lui est essentiel. Ça découle de sa définition même. Dieu, bien infini, bien sans mélange et sans limite, se communique intégralement avec tout son être et tout son amour. Mais, et c'est là que le bât blesse, Dieu ne contraint personne à accepter ses libéralités. Et du coup, nos résistances, nos ingratitudes, nos insouciances font obstacle à Dieu, sauf les cas, bien sûr, tout à fait miraculeux d'ailleurs, et extrêmement rares, où Dieu lui-même va briser ses obstacles. Mais ordinairement, il ne le fait pas. Il nous apporte dans l'Eucharistie tous les trésors du ciel. L'aliment est parfait. Mais Dieu trouve rarement des sujets capables de l'assimiler dans sa plénitude. Toutes les âmes ne sont pas des organismes suffisamment sains pour profiter pleinement du bienfait que leur apporte la nourriture divine. Comme certains corps débilités ou malades, elles sont atteintes de malaise, de faiblesse, d'affection qui empêchent partiellement l'action vivifiante de la Sainte Hostie. Avec cette différence toutefois, que les maladies spirituelles de l'âme étant volontaires en elles-mêmes ou dans leur cause, il dépend de nous d'en guérir et de favoriser, selon le degré de notre générosité, l'influence nutritive de cet aliment surnaturel. Le pouvant, nous le devons. Il y va de nos plus suprêmes intérêts, notre sanctification en ce monde et le salut de notre âme. Or, c'est précisément à enlever tous ces obstacles que tend le travail de la préparation à la Sainte Communion. C'est un travail de formation doctrinale, un travail de sanctification, de correction de nos défauts, de purification de nos consciences, d'accroissement de notre charité et de notre désir de Dieu. Par manque de temps, on ne peut pas développer ici tout ce en quoi consiste ce travail indispensable, évidemment. Du moins, nous espérons que ces quelques mots auront contribué à en faire comprendre l'importance. C'était ça l'objet de ces quelques mots ce matin, l'importance. Et que ces mots auront permis de renouveler le regard que nous portons sur la Sainte Communion et les trésors qu'il contient. Et bien que la Vierge Marie nous apprenne à bien préparer nos communions et à bien les faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.